Et on l'a dit ce matin, oui, Félix, et nous sommes revenus sur cette affaire d'espionnage du logiciel Pegasus.
Et oui, logiciel israélien avec lequel les services marocains auraient ciblé les téléphones de 50 000 personnes, dont le président Macron et ses ministres en 2019. Alors, Guillaume Larrivé, député LR de Lyon, attend désormais des réponses du gouvernement français sur cette affaire.
Ce n'est pas une surprise que ces autorités puissent être ciblées. La vraie question, c'est de savoir si elles ont été atteintes, c'est-à-dire si le ciblage a été effectif. Ce que je voudrais dire ce matin à votre antenne, c'est qu'il me paraît nécessaire que le gouvernement français, dans les jours ou les semaines qui viennent, puisse venir devant l'Assemblée nationale, devant la commission de la défense ou la commission des lois, dire très précisément ce qu'il en a été. Peut-être d'ailleurs que cette audition devrait être à huis clos, mais en tout cas, on a besoin de savoir quels sont les pare-feux en termes de sécurité nationale. On ne peut pas envisager sérieusement que le chef de l'État de la sixième puissance du monde, la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, soit espionné sur son téléphone.
Des députés qui reprochent la réponse timide finalement de l'exécutif à ces révélations. Pas de condamnation tonitruante de cette possible affaire d'espionnage du Maroc, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Maroc, un pays ami de la France. D'ailleurs, l'arsenal juridique français est en lui-même peu armé finalement pour s'opposer au cyberespionnage. C'est ce que nous a expliqué Bernard Carayon, maire de Lavaur, ancien député du Tarn. Il est un spécialiste des questions de guerre économique et de renseignement.
Les sanctions pénales sont d'ailleurs assez limitées. J'ai vérifié la violation sur l'intimité de la vie privée, c'est un an de prison et 45 000 euros d'amende. La violation par des technologies d'information, c'est 2 ans et 30 000 euros. C'est-à-dire les sanctions pénales sont assez faibles. Hein. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça peut monter à 10, 20, 30 ans de prison. Et c'est infiniment plus dissuasif. Ça montre bien que notre arsenal pénal n'est pas à la hauteur aujourd'hui des risques, des menaces et des formes les plus diverses d'intrusion dans la vie privée, dans la vie des entreprises ou dans la vie de l'État. Aujourd'hui, nous assistons à la fin du secret. C'est ça qui est gravissime, parce que toute société a besoin de secret, toute personne a besoin de secret, toute entreprise a besoin de secret, tout État.
Bernard Carayon qui se souvient aussi de la réponse assez molle à l'époque des autorités européennes lors des révélations Snowden sur l'espionnage de la NSA qui avait visé notamment l'Europe, espionnage des États-Unis, avec par exemple la Commission européenne qui, dit-il, s'était cantonnée à annoncer un groupe de travail sur la question.
Voilà. Quelle sanction ! Eh oui. Créer un groupe de travail, ça vraiment, oui, ça fait trembler Washington.
Hein. On a connu plus énervé comme réponse
Vincent
sur d'autres
il a
sujets.
En panique.
Allez,
ah,
autre sujet d'actu que nous avons évoqué, le pass sanitaire. Sera-t-il nécessaire ce pass sanitaire pour aller à l'hôtel ? Eh bien, on a voulu clarifier la question. Réponse, non. Enfin, oui. Enfin, peut-être. Enfin, dans certains cas, quoi.
C'est compliqué. Peut-être bien, oui, peut-être bien.
C'est compliqué, quoi, même pour Emmanuel Sauvage, cofondateur, directeur général du groupe d'hôtel Evoque. Il est aussi co-président de la branche Prestige du GNI Synorca Paris-Île-de-France.
Alors c'est vrai que c'est pas toujours très très clair, j'admets. Donc le pass sanitaire,
c'est un doux euphémisme.
Voilà, le pass sanitaire doit être mis en place dans les hôtels, dans les restaurants, les cafés à partir du 1er août. A priori, les hôtels sont souvent oubliés dans la liste, mais quand on va à l'hôtel, on est obligé d'aller à la salle petit-déjeuner, d'aller au sport, d'aller au spa, donc le pass sanitaire est obligatoire. Et en parallèle, on a également un club de sport au Brac. Donc le pass sanitaire, lui, au Brac pour le club de sport, est obligatoire dès le 21. Donc on n'est pas tout à fait très clair, mais on est habitué maintenant depuis un an et demi à naviguer,
à jongler.
Mmh. Ouais, on va dire que la branche café, hôtel, restaurant est quand même très impactée et vraiment s'est habitué et s'est adapté à tout ce qu'on nous a demandé depuis le début.
Bon, préparez quand même votre pass sanitaire au cas où si vous voulez faire la moindre activité, quoi, vous aurez compris.
Ou si vous voulez prendre une chambre à l'hôtel.
Merci beaucoup, Félix. Mathieu.
Merci.
Bonjour Vincent Ferniaud.
Bonjour les amis. Bien là. Bonjour Vincent Ferniaud.
Alors, confiné dans votre studio, vous n'avez pas envie de partir sur les routes de l'été ?
Ah bah si,
en notre compagnie.
Et alors,
c'est gentil.
La question nous met déjà l'eau à la bouche, mais pas que l'eau.
Bah oui, c'est
avec
sûr.
Avec modération, hein. Philippe. Bah, enfin.
Ça dépend pour qui.
En fait, pour la question d'été, elle est autour de la consommation d'alcool pendant les vacances.
Voilà.
Moi, je pense largement au vin, parce que
oui.
Je suis pas très cocktail, etc.
Non.
Mais c'est vrai que souvent, quand on a un peu abusé pendant l'année, on se dit est-ce que c'est le moment de faire de la détox, et notamment de vin et des apéritifs. Donc, on va poser la question.
C'est vraiment pour ou contre, hein, ça.
Ah bah oui, mais on va poser la question à un addictologue de savoir à quel moment il faut vraiment s'arrêter.
Excusez-moi, avec modération, vous connaissez la.
Formule, oui, bien sûr.
Un barbecue l'été sans un coup de rosé, c'est quand même un peu tristounet, non ?
Nous aurons quand même en face Hugues Lemarié, le fondateur des Domaines qui montent, qui vient nous expliquer le travail des vignerons pour retirer le plus d'alcool possible des nouveaux vins. des vins qui sont beaucoup moins chargés en alcool et c'est pas mal justement au moment des vacances.
Et où est-ce que vous allez nous emmener également dans nos beaux territoires de France?
En Occitanie, bien sûr.
Le Tarn
et le Tarn-et-Garonne.
Très bien.
Les deux Tarnes.
Les deux Tarnes, oui. Bon, on y était tout à l'heure. On était avec un chef de Verfeil. Ça ne s'invente pas. Nicolas Thomas, chef étoilé. Et on avait le maire de Lavaur. Donc vous y retournez.
On était bien dans le thème.
On y est bien. On y est très bien. Et souvent, le Tarn-et-Garonne est un peu oublié. On parle du Tarn.
Et c'est pourtant le premier département maraîcher de France.
Absolument. D'ailleurs, on va parler à la fois Aille de Lautrec, Chasselas de Moissac, Melon du Quercy, la prune du département. Enfin, vraiment, on va
se régaler.
Écoutez, avec l'Aille de Lautrec, on pourra se faire un très bon tour un de ces jours.
Ah ben écoutez, oui, mais pas dans le studio. Hein.
Merci beaucoup, on vous retrouve tout de suite. Et je m'excuse auprès de Marine Van Turnhout qui était avec vous parce que j'ai dit Marine Carbalet. Non, c'est Marine Van Turnhout. Il y a deux Marines qui suivent. Et Marine, mes excuses et je t'embrasse. Voilà, c'est fait.
Voilà, c'est reçu. Ça c'est dit. Et ben, on vous retrouve demain, les amis, avec de nouvelles aventures et un beau programme aussi pour la matinale. Et on vous embrasse. Bonne journée.